Chapitre 4. Études d'un homme avancé en âge. M. Tyrold et sa famille se préparèrent à retourner à Hetherington, et Mme Tyrold, qui n'avait plus rien à espérer pour Camilla du côté de la fortune, témoigna un vif désir de l'emmener avec elle. Sir Hugh, dont tout le plaisir qu'il trouvait à la voir était empoisonné par les regrets et les remords, n'eut pas le courage de s'y opposer. Mais il passa dans les gémissements le jour de son départ. Cependant, il crut qu'il avait le droit de retenir Eugénia, qu'on lui laissa pour être élevée à Clèves, comme son héritière reconnue. L'éloignement de sa favorite, la fortune dont il la privait et la douceur avec laquelle elle avait supporté cette perte revenaient sans cesse à sa pensée. Il ne savait comment se distraire de son chagrin, comment s'occuper, comment rendre les jours de sa solitude moins longs et moins pénibles. Il se désespérait de ne pouvoir, comme son frère, trouvait des ressources constantes dans la littérature, et cette idée s'offrant toujours à son imagination, qui n'avait jamais été réglée par la sagesse ni formée par l'expérience, il se figura bientôt que toutes les infortunes qui sont sur la terre ne provenaient que d'un défaut de savoir et que tout ce qui lui manquait pour son bonheur était une suite nécessaire de son ignorance. Si les maux du corps le faisaient souffrir, il gémissait de n'avoir pas, dans sa jeunesse, acquis des connaissances qui lui auraient appris à mépriser la douleur. Si le nom d'étudiant était prononcé devant lui, il poussait un profond soupir. Si, dans les journaux, on discutait un sujet qui lui fut inconnu, il baissait la tête de honte. Les malheurs, même inévitables, il les regardait comme les fruits de sa mauvaise éducation, et chaque erreur, chaque peine de sa vie, il attribuait au mépris qu'il avait eu dans son enfance pour le grec et pour le latin. Tel était l'état de son esprit, lorsqu'à ses souffrances ordinaires vint se joindre un violent accès de goutte. Au milieu des douleurs aiguës et des regrets inutiles, tout d'un coup, il imagina qu'en étudiant, quoiqu'un peu tard, il pourrait peut-être encore acquérir quelques connaissances qui le mettraient en état de passer les soirées comme son frère. Ranimé par cette inspiration, il écrivit aussitôt à M. Tyrold pour la lui communiquer. Il le priait de l'aider à réparer le temps perdu, de lui indiquer un maître pour régler ses études. « Non que je veuille, quoi que ça, disait-il, figurer comme un savant. Tout ce que je désire, c'est d'en apprendre assez pour dissiper l'ennui et me faire oublier ma goutte. » La folie du projet de Sir Hugh n'empêcha pas M. Tyrold d'entrer dans ses vues. Sa condescendance aux désirs des autres ne connaissait de bornes que ses principes et la douce philosophie de son caractère ne repoussait rien de ce qui pouvait adoucir les souffrances de l'humanité. Il se souvint qu'un de ses amis de collège et compagnons d'études était dans une situation assez difficile. Il lui fit part de la lettre de son frère et lui proposa de le placer dans sa maison. Celui-ci accepta sans balancer. Ses offres venaient d'autant plus à propos que de jour en jour, il était menacé d'une sentence de prise de corps. Ce qu'il ne s'était attiré, ni par des prodigalités, ni par des débauches, mais par l'ignorance la plus absolue de la valeur de l'argent et de l'économie. Madame Tyrold eut pitié du projet de son beau-frère. « Quelle idée folle et ridicule! Assurément, l'issue n'en était pas douteuse. S'y prêter était d'une fausse indulgence. » Et comment était-il possible que M. Tyrold, pour complaire à son frère, daignât encourager une fantaisie qui n'aboutirait qu'à lui faire perdre du temps? La première fois qu'il vint à Hetherington, Sir Hugh s'aperçut bientôt qu'elle désapprouvait son plan. Mais il ne s'en fâcha point. Il lui dit qu'il voyait avec peine qu'elle n'eût pas grande opinion des progrès qu'il pourrait faire, mais que néanmoins, il la priait de considérer que sa tentative n'était pas infiniment présomptueuse, puisqu'en commençant par les premiers principes, il n'avait pas l'ambition d'aller plus loin que le plus petit écolier. « Oui, ma sœur, ajouta-t-il, le rudiment, et quand je l'aurai parcouru, je ne serai pas embarrassé du reste. » M. Tyrold sentait aussi bien que sa femme qu'il était impossible que Sir Hugh réparât les vices de son éducation. Mais le baronet était tourmenté de la douleur de ne rien savoir et de beaucoup d'autres maux. M. Tyrold crut son idée propre à les calmer, et comme elle était innocente, il oublia qu'elle était absurde. Il ne manqua pas de se trouver à Clèves le jour où Sir Hugh attendait le docteur Orkborn. Il le lui présenta lui-même avec toutes les marques de considération possibles, comme un homme dont la société pouvait adoucir ses peines et donner de l'agrément à sa solitude. Le docteur remercia M. Tyrold et promit de ne rien négliger pour justifier la préférence dont il était honoré. Le docteur Hawkburn n'avait reçu qu'une éducation purement scolastique et, quoiqu'il n'eût trompé ni les soins ni les espérances des amis auxquels il en était redevable, il n'en recueillait aucun avantage. Laborieux et maladroit, il ignorait absolument l'art de faire valoir son travail, et nul ne prouvait mieux que savoir acquérir et savoir employer sont deux choses parfaitement différentes. À l'aide d'une application continuelle et d'une mémoire heureuse, il s'était rendu recommandable aux yeux des savants en amassant des trésors d'érudition. Mais cette érudition, constamment perdue pour son avancement, l'avait laissé dans le monde à la même place et sans fortune. Du reste, son caractère était irréprochable et la détresse n'altérait aucunement sa tranquillité. Voilà ce qui détermina le choix de M. Tyrold. Il pensa qu'un asile à Clèves débarrasserait le docteur de toute inquiétude pécuniaire et qu'à l'égard du brillant et de l'usage du monde qui lui manquait, Sir Hugh, qui, sous ce rapport, n'était guère plus fort que le docteur, n'éprouverait pas le besoin d'une société plus agréable, qu'en un mot, leur satisfaction serait réciproque. M. Tyrold, après avoir présenté le docteur Hawkburn, aurait désiré pouvoir d'abord établir quelques liaisons entre lui et le baronet avant qu'il fût question du plan d'études. Mais Sir Hugh ne put contenir l'effusion de ses regrets et de ses espérances. Il se mit sur le champ à déplorer la perte de ses premières années qu'il attribuait au manque de sévérité de la part de ses maîtres. « C'est un vieux proverbe, s'écria-t-il, mais il est de toute vérité que la science vaut mieux que les maisons et les terres. Et regardez-moi, j'en suis la preuve. Des terres et des maisons, j'en ai en abondance. Eh bien, je ne sais que faire de tout cela, ni de moi, parce que je n'ai rien de ce qu'il faut pour en jouir, pour me guider. » Il craignait, ajoutait-il, que son frère n'eût pensé trop favorablement de ses dispositions en le croyant digne d'un maître tel que le docteur Hawkburn. Mais il déclara qu'en dépit de son âge, le docteur n'aurait pas d'élève plus docile et qu'il ne désespérait pas de faire honneur à ses soins. M. Tyrold, embarrassé de cette ouverture précipitée, s'efforça de donner un autre tour à la conversation. Il ne pouvait s'empêcher de sourire de la contenance et de l'étonnement du docteur, qui, connaissant le grand âge de Sir Hugh et ses infirmités, s'était cru destiné, par le choix de M. Tyrold, à le distraire dans sa retraite par des entretiens et des lectures, mais qui ne s'attendait pas à se voir placé chez le vieux gentilhomme en qualité de précepteur. Sir Hugh ne lui déguisa point son projet. Il confessa mille fois sa profonde ignorance et finit par demander au docteur quel était le meilleur livre pour un commençant. Et comme le docteur, surpris, ne répondait pas, « Allons, allons, lui dit gaiement Sir Hugh, n'ayez pas honte de m'indiquer le plus aisé. À mesure que j'avancerai, j'ai dessein, pour mieux graver les leçons dans ma tête, de faire venir un de mes neveux, à qui j'apprendrai moi-même tout ce que vous m'aurez appris, ce qui sera également avantageux pour lui et pour moi. » M. Tyrold, qui n'avait pas osé lever les yeux, crut pourtant que le mieux était d'abandonner le docteur à ses propres réflexions, bien convaincu que Sir Hugh ne serait pas longtemps ridicule aux yeux d'un galant homme qui saurait bientôt apprécier son amitié, ses vertus et sa bienfaisance. L'ardeur du baronet pour l'étude était au plus haut degré. Sa dernière aventure, sa nouvelle héritière ne le tourmentait plus. Indiana fut oubliée. Il ne songea que faiblement à Camilla. Le projet de retrouver le temps perdu l'occupait seul et ne lui laissait aucune autre pensée. Le docteur Hawkburn connaissait mieux les livres que les hommes. Il était incapable de juger le caractère de Sir Hugh. Et sans son respect pour M. Tyrold, il aurait cru qu'on se jouait de sa simplicité. Cependant, sa situation était très améliorée. Placé tout à coup dans l'aisance, le docteur sentit le besoin de se maintenir dans une position aussi désirable et il fit sa cour au patron sans se flatter de pouvoir l'instruire, entreprise dont l'impossibilité lui fut bientôt démontrée. De son côté, Sir Hugh, enchanté, se félicitait de recevoir les leçons d'un maître assez poli pour ne pas le dédaigner. Orckborn méditait depuis longtemps un grand ouvrage de critique et de littérature, d'une exécution difficile et auquel il n'avait pas eu le loisir de se livrer. Il résolut de profiter pour mettre la main à l'œuvre de la tranquillité dont il jouissait. Ce travail lui présentait une ressource assurée contre l'ennui. Tandis que Sir Hugh, voyant que le docteur n'éprouvait pas comme lui le poids du temps, en concevait une idée plus haute encore de la science et s'échauffait à la vue d'un pareil avantage auquel il se flattait bien de participer à son tour. Cette illusion ne dura pas. Un ballot de livres étant arrivé de chez le libraire par les soins du docteur, Sir Hugh envoya prévenir son frère et sa famille qu'il ne devait pas être surpris s'il ne le voyait ni n'entendait parler de lui de quelque temps parce qu'il était retenu par de sérieuses occupations, mais que dans une semaine ou deux, il les engagerait à venir le voir. Le docteur, qui n'était pas encore bien au fait du plan de son nouvel élève et qui ne savait pas jusqu'à quel point allait sa folie, lui proposa, dès que le paquet fut ouvert, de lire ensemble. « Non pas, non pas !» s'écria le baronnet. « Marchons avec ordre, je vous prie. Je ne sauterai pas à pieds joints par-dessus le rudiment. » Orckborn resta consterné, comme on peut le croire. À l'âge de Sir Hugh, sans facilité pour apprendre ni pour retenir, étudier les éléments ingrats d'une langue morte, à laquelle on ne peut appliquer que la jeunesse, encore même en l'y contraignant. Quelle démence ! Aussi, sa tête se troubla bientôt, ses idées se confondirent et toutes ses facultés se désordonnèrent. Il en fut étonné, mais tout cela ne venant, selon lui, que de ce qu'il n'avait pas encore une bonne méthode, il ne se découragea point et continua de se priver de ses parents et de ses amis avec zèle et persévérance. À chaque leçon, les difficultés s'accrurent et les nuages s'épaissirent. Enfin, son cerveau se dérangea, au point qu'il ne savait s'il dormait ou s'il veillait. Il ne reposa plus, l'agitation de ses jours et de ses nuits altéra visiblement sa santé. Les brillantes espérances dont il s'était bercé s'évanouirent et le désespoir leur succéda. Il envoya chez son frère pour le prier de venir un moment à Clèves. M. Tyrol s'y rendit. Sir Hugh lui serra la main et, le regardant d'un œil où la tristesse était peinte, « Savez-vous, mon frère, lui dit-il, que je ne suis qu'un franc imbécile ?» M. Tyrol, plus touché que surpris de la situation du baronnet, s'efforça de le consoler, de relever son courage, en lui faisant envisager une manière moins difficile de profiter de la présence et des leçons du docteur. « Non, non, mon cher frère, puisque celle-ci ne m'a pas réussi, je suis sûr qu'une autre ne me réussirait pas davantage. » Je ne me serais pas donné plus de peine quand j'aurais été menacé d'être fustigé tous les jours, et cet honnête homme a fait tout ce qui dépendait de lui. Que voulez-vous? C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent rien apprendre. » Puis il ajouta, en secouant la tête et en baissant la voix, « À vous parler vrai, pour les fruits que j'ai retirés de tout cela, j'aurais aussi bien fait d'y renoncer d'abord si je n'avais craint de chagriner ce pauvre docteur. Cependant, ne lui en dites rien, car il serait injuste de le congédier par la seule raison que je manque absolument d'intelligence. C'est ma faute et le docteur n'y peut rien. » M. Tyrol en tomba d'accord et se mit à rêver au moyen de sortir d'embarras à cet égard. « Mon frère, continua Sir Hugh, cherchons aussi comment je pourrais l'empêcher de m'assaillir de tous les livres qu'il a rassemblés pour mes études. » Car vous ne savez peut-être pas que je l'avais prié de m'acheter un livre pour commencer et qu'il m'a fait venir une bibliothèque tout entière. Quand il entre pour me donner ma leçon, tous ses livres le suivent et je vous avoue qu'à les voir seulement, je sens déjà la tête qui s'en va. Mais, encore une fois, n'en parlez pas à ce pauvre jeune homme. Pour rien au monde, je ne voudrais l'affliger et j'aimerais mieux, Dieu me pardonne, prendre encore une leçon que de lui causer le moindre chagrin. M. Tyrol promit qu'il ferait pour le mieux et le quitta. Il n'était pas à 200 pas de Clèves qu'un domestique de Sir Hugh, courant après lui au grand galop, le pria de la part de son maître de vouloir bien revenir tout de suite. Sir Hugh n'était plus le même quand il revit M. Tyrol. L'air de satisfaction brillait sur son visage. « Cher frère, lui dit-il en l'abordant, notre affaire est tout arrangée, n'y pensez plus. Il vient de me venir un autre plan, et voici ce que c'est. Je ne me séparerai point de cet honnête homme. Mon projet est d'établir ici, dans ma chambre, une école pour tous mes neveux. Je chargerai le docteur de leur instruction, je serai présent, j'écouterai, je ne les quitterai pas. Et qui sait si, sans me donner tant de peine, je n'attraperai point, par-ci, par-là, quelque chose de ce qu'ils apprendront. » Les objections se présentaient en foule. M. Tyrold n'en fit point. En combattant cette fantaisie, le docteur était remercié, tandis qu'en s'y prêtant, il gardait sa place. Sir Hugh demandait en conséquence que Lionel vînt sur le champ. Le docteur, ajouta-t-il, écrira tout à l'heure au principal du collège d'Eton qu'après les fêtes, je prends Clermont chez moi pour que ses études soient dirigées sous mes yeux. Ainsi, mon frère, ayez la complaisance d'en prévenir Orkborn et de l'y préparer. M. Tyrold, qui ne voyait dans ce projet d'autre inconvénient que l'incertitude de son succès, en fit part au docteur, et celui-ci, fort indifférent sur la manière dont on emploierait ses soins, pourvu qu'il continuât son grand ouvrage, promit une aveugle soumission au désir du baronnet.